Bien, bien, bon, bonjour à tous nos chers auditeurs et, je sais pas, viewers, je sais pas comment on appelle ça. Et aujourd'hui, je suis dans une situation un peu difficile parce que c'est moi qui fais l'introduction. D'habitude, il y a toujours quelqu'un qui est là, qui fait des introductions, qui fait des astuces, et là, je sais pas trop quoi faire. Mais je vous remercie en tout cas d'être présent et j'invite avec le plus grand plaisir, pour la deuxième ou troisième fois à l'Institut des Libertés, Jim William Goldnadel, qui a publié un livre qui s'appelle Journal de la guerre, c'est l'Occident qu'on assassine. Alors c'est un sujet un peu brûlant, je crois qu'on peut dire les choses telles qu'elles sont. C'est dans le fond ce qui se passe en France et en Israël. Et la thèse de Gilles Williams, c'est de dire que dans le fond, ce qui se passe, en Israël ou ce qui se passe en France, c'est un peu la même chose. Donc est-ce que vous pourriez développer un peu cette thèse? Parce que je crois que c'est une thèse qui a le mérite de la simplicité, c'est-à-dire que dans le fond, nous avons une espèce de lutte des civilisations, appelons telle qu'elle par son nom, et que ben, les mêmes effets produisent les mêmes causes, ou les mêmes causes produisent les mêmes effets plutôt.
Écoutez, je pense effectivement que nous sommes dans le même bateau. Il se trouve que c'est un franco-israélien qui vous parle.
Donc vous êtes dans les deux bateaux à la fois.
Je suis dans les deux bateaux. J'ai un pied de chaque côté de la Méditerranée, si j'ose dire. Et mon cœur est de deux côtés, à dire le vrai. On est dans le même bateau parce que je pense que nous souffrons d'une détestation commune et d'un mal commun. Et d'ailleurs, ce livre a été, toute modestie mise à part, bien accueilli par beaucoup de Français de toute origine. C'est pas
alors, borné. Arrêtons dans les tonnes. Vous dites que nous souffrons tous les deux. Peut-être en Israël, la façon dont ils traitent le problème est un peu différente de celle dont nous traitons en France, non?
Oui, mais peut-être qu'ils n'analysent pas non plus forcément convenablement les choses.
Oui.
Souvent, nous souffrons d'un mal dont nous ne connaissons pas tout à fait l'origine, ou que nous maîtrisons mal. Moi, je dis...
Développez.
Ça fait 30 ans pratiquement que j'écris à peu près pas les mêmes choses, parce que les choses évoluent. Mais... mon combat en France, par exemple, l'un de mes combats les plus importants, y compris à l'intérieur de ma communauté d'origine, c'est le combat contre l'extrême gauche. Mmh. Alors qu'une grande partie de ce qu'on appelle la communauté organisée a considéré, en partie considère toujours, de manière assez fantasmatique, que le mal venait de l'extrême droite. Voilà. De la même manière, je n'ai pas attendu le 7 octobre, puisque ce livre démarre le 7 octobre.
Bien sûr.
Je n'ai pas attendu le 7 octobre pour dire que la détestation d'Israël venait moins d'un antisémitisme qui, évidemment, existe toujours, que de la détestation pathologique du blanc. Voilà.
Donc votre thèse, c'est de dire notre civilisation, on est arrivé à un point où elle se déteste tellement qu'elle se suicide.
Ah, il y a un aspect à la fois masochiste et suicidaire, ce qui n'est pas totalement incompatible.
Non.
Mais il y a 20 ans, j'ai écrit le nouveau bréviaire de la haine, et ensuite j'ai écrit Réflexion sur la question blanche. Et j'explique, parce que le mal a commencé, tel que je l'ai isolé, par l'antinazisme devenu fou. Tout était Shoah, tout était nazisme.
Pourquoi? Parce que les gens pensaient que donc, les Shoah, c'était la victime ultime, donc dans cette espèce de lutte que tout le monde fait pour être la victime la plus ostentatoire, il fallait être victime de la Shoah pour être, ou du moins que celui qui vous persécute soit un nazi.
Bah, d'une certaine manière, nous vivons dans un monde post-chrétien.
Mmh, oui.
Et dans le cadre de ce monde post-chrétien, la crucifixion de Jésus a été remplacé par la crucifixion du juif en pyjama rayé. C'était assez bien vu, parce que, d'abord, Jésus était juif, mais surtout...
C'est ce que disent les bons esprits, oui.
Oui, c'est ce qu'on dit. Mais c'est surtout parce que le juif en pyjama rayé imitait assez bien dans sa souffrance un peu doloriste et acceptait d'une certaine manière Jésus le juif. C'est-à-dire qu'il était sur la croix de la Shoah sans sourire ni combattre. Et donc pour toute la génération, si vous voulez, post-shoatique, c'est créer une sorte d'antinazisme devenu fou où, d'une certaine manière, dans l'inconscient blanc post-chrétien, il y avait une sourde honte inconsciente d'avoir en commun avec l'antéchrist Adolf Hitler la même couleur de peau. Il faut reconnaître tout de même, que Hitler... symbolise, incarne assez bien, avec quand même, reconnaissons-le, un certain talent, l'antéchrist suprême.
En fait, on l'a présenté comme le mal absolu.
Le mal absolu.
On ne peut pas faire mieux. C'est imbattable.
On ne peut pas faire mieux.
Donc si on vous compare à Hitler, ça veut dire que vous êtes automatiquement assimilé au mal absolu.
Mais,
c'est donc l'insulte suprême.
Mais bien sûr, et donc, ce que je veux dire, il y a eu un mouvement, ce mouvement se passe à peu près sur 30 ans, et là, il est en train pratiquement de s'achever. C'est-à-dire que mai 68, c'est CRSSS, et nous sommes tous des juifs allemands. À la fois, les représentants de l'autorité de l'État français sont des nazis, et d'autre part, la qualité suprême, c'est d'être le juif souffrant. C'est dans ce cadre psychique déjà assez détérioré, mais fort, mais puissant, que l'extrême gauche a fait son nid et a comparé tout représentant de l'autorité, mais même tout désir, Charles Gave, tout désir d'un État de vouloir ne serait-ce que contrôler ses frontières à ce qu'il pouvait...
Donc, oui, c'est très intéressant. Donc, vous êtes en train de dire que l'espèce de syllogisme qu'ils ont créé, c'est de dire les Allemands ont créé la Shoah parce qu'ils avaient le pouvoir politique. Ils ont pu le faire parce qu'ils avaient le pouvoir politique d'un État. Donc, tout État est automatiquement... nazi ou fasciste.
Oui.
Toute forme d'autorité est
totalement... Toute forme d'autorité occidentale, Charles.
Oui, occidentale, oui, parce
c'est,
que les autres...
C'est très important. L'État-nation occidentale incarne la forme, une sorte d'État nazi. Mais encore faut-il que l'État-nation soit blanc. Créer un État-nation palestinien, je le dis ça au hasard, ça n'a rien de répréhensible.
Ou même c'est souhaitable.
Vous êtes une tribu indigène d'Amazonie, vous ne voulez pas que des blancs brésiliens rentrent chez vous, d'ailleurs quelquefois ils sont porteurs de maladies, eh bien c'est une réaction d'hostilité saine pour protéger votre corps social. Ça n'est qu'aux blancs occidentaux, à cause des turpitudes du blanc occidental diabolique qu'est Adolf Hitler, que cette chose-là est considérée comme détestable. Et dans le dernier état de la pensée, l'avant-dernier état de la pensée, on va dire jusqu'au 6 octobre, dans le dernier état, si vous voulez, de la pensée, je dépeins en vérité pour vous donner un exemple pratique. Je parle des antisémites. Et dans la catégorie des antisémites, celle la plus redoutable, c'est le philosémite déçu. Et le philosémite déçu, le plus emblématique, et qui a eu un rôle très actif au sein de l'idéologie médiatique actuelle, c'est Edvy Plenel. Pour Edvy Plenel, le juif en pyjama rayé est un sujet d'affection. Et au rebours, le juif en uniforme kaki, qui est l'exact contraire.
Le petit-fils du premier, souvent.
Souvent le petit-fils du premier, bien sûr. Mais il trahit le premier, parce que le juif en pyjama kaki, lui, se défend, il lui arrive même de tuer. Donc, dans l'inconscient tourmenté du sieur Plenel, qui a plénélisé toute une partie de la presse française sur 30 ans, le juif en uniforme kaki, c'est Judas en Galilée, en réalité. Il est l'exact traître du juif adoré. Le juif adoré, celui qui adore le juif en pyjama rayé, l'abhorre en uniforme kaki. La réalité, elle est là. Et dans le dernier état, si vous voulez, de cela, aujourd'hui, la réalité, c'est que nous assistons à un islamo-wokisme. Le monde est devenu, que ce soit dans les universités américaines ou françaises...
Alors là, je vais vous poser une question, oui, parce que vous arrivez à l'islamisme, qui me paraît intéressant.
Oui.
Et tout le monde me parle d'islamophobie, ce qui est un sujet intéressant. Bon, mais enfin, moi, personnellement, j'ai très peur de l'islam. Donc, vous voyez, ça, pour des tas de raisons. Parce que je suis né là-bas, donc je connais un peu tout ça.
Oui.
Mais ce qui m'intéresserait, c'est que vous m'expliquiez pourquoi on a cet cette amitié pour l'islam, l'islamophilie en quelque sorte, dans toute une partie de la gauche française. Qu'est-ce qui rend l'islam tellement attrayant pour ces gens-là ?
La dilection pour l'altérité.
Ça n'est pas en français, tiens.
La préférence pour l'autre. Ça n'est pas tant...
Ils se détestent même à ce point-là ?
Ça n'est pas tant qu'ils sait... pour l'islam qu'ils ne connaissent même pas d'ailleurs. Mais ça n'est pas pour qu'ils aient pour l'islam ou le musulman une sympathie idéologique ou intellectuelle particulière, pas du tout. Mais ils ont une telle détestation pour ce que nous sommes. Ils ont une telle détestation, par exemple, pour la vieille religion du vieux peuple, que par contraste, ils ont, eux, au contraire, une préférence pour la religion du nouvel arrivant. C'est cela, surtout. Ils se
Parce qu'ils ont le même ennemi, c'est-à-dire qu'ils trouvent que la religion du vieux peuple, c'est pas acceptable, donc ils se disent les ennemis de mes ennemis sont mes amis.
Exactement.
Est-ce que c'est ça, la réalité?
Oui,
Je pense
que réellement, par contraste, c'est-à-dire que dans les années où l'extrême gauche vraiment a fait son nid, dans les années, si vous voulez, post-68 art, il y a eu une profonde détestation raciste du franchouillard. C'était quoi le franchouillard,
Charles ? C'était Super Dupont, vous vous souvenez ?
C'était Super Dupont, c'était le franchouillard. C'est celui avec le béret péténiste sur la tête. C'était d'une certaine manière le camarade, le collaborateur d'Adolf Hitler, le détestable. Donc, dans ce cadre, qui est encore une... Si vous ne portez pas un regard psychiatrique sur cette situation, vous êtes condamné à ne rien comprendre.
Mais c'est quand même extraordinaire, parce que bon... moi, j'ai fait. Mon père était résistant, donc j'ai pas passé de jugement, mais enfin, à partir de 41. Mais les Français n'ont pas tous été des collaborateurs. Il y en a beaucoup qui n'ont rien fait. Mais pourquoi assimiler le brave gars avec un béret sur la tête et une baguette de pain sur son vélo qui ramène son enfant en école, pourquoi l'a assimilé à Hitler ? Quel est le passage intellectuel ?
Mais je vais vous dire, c'est toujours le même raisonnement, Charles. Il est irrationnel de vouloir rationaliser dans un monde devenu fou. Le beauf détestable. Il est d'une certaine... C'est le cousin d'Adolf Hitler. C'est le blanc. C'est encore une fois...
Alors, je vous arrête là, parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est très important, c'est que nous sommes mauvais dans notre essence.
Nous sommes bien sûr, mais nous
sommes... Nous sommes mauvais dans notre essence. C'est-à-dire, vous remplacez blanc par juif et on retrouve le même problème.
Mais vous savez, nous sommes mauvais dans notre essence, nous sommes mauvais dans notre être, nous sommes mauvais dans notre épiderme. Il y a un aspect profondément raciste de cette vision des choses. Et dans ce cadre-là, pour poursuivre votre question par rapport aux musulmans, dans le système de fous, pardon de vous le dire, que je vous décris, le musulman, c'est le nouveau juif. C'est simplement le nouveau juif. Le juif est la victime du nazi Hitler. Le musulman est la victime du beau français. C'est la même logique de détestation de ce que nous sommes, mais que vous ne pouvez pas ne pas comprendre que dans le cadre, encore une fois, racial. Et le wokisme, dans ce cadre-là, le wokisme, c'est le dernier stade de détestation pathologique où les choses sont dites. Là, c'est plus la peine que je me livre à une explication psychanalytique, Charles.
Alors, bien sûr. Alors, je vous arrête parce qu'il y en a encore. On doit dire quelque chose à ce point-là, peut-être. Ça explique peut-être l'effondrement de la natalité. Parce que si les hommes se détestent à ce point-là...
Mais vous n'avez pas envie de fabriquer de nouveaux petits blancs. Pourquoi voulez-vous fabriquer de nouveaux petits blancs? Mais par contre, vous remarquerez... Comme ça, vous remarquerez que nos écologistes qui pensent que c'est la fin du monde, qu'il faut économiser tout, etc., se gardent bien de critiquer la surpopulation des autres. Il n'est pas question de demander aux Noirs d'Afrique ou aux Arabes du Maghreb de faire moins d'enfants. Il n'est pas question de cela.
Donc c'est simplement... Encore une fois, on revient à la même chose, c'est-à-dire toute notre civilisation a été fondée sur une idée assez simple, c'est qu'il n'y a pas de morale collective, on n'est pas mauvais dans son essence. Chacun doit juger l'autre en fonction des mérites de l'autre, ou des inconvénients et des mérites. Donc, cette espèce d'individualisme qui était à la base de notre civilisation, on retourne à la tribu.
Bien sûr, on retourne à la mauvaise tribu. On retourne à la mauvaise tribu. Et encore une fois, dans ce dernier état de la pensée dégénérée ou dégenrée, je ne sais pas ce qu'il faut que je dise.
Les deux.
Puisque la détestation du mal, c'est avant tout la détestation du mal blanc, les choses sont dites. Le juif, vous allez comprendre.
Et le chrétien aussi.
Vous allez comprendre mon lapsus. Le blanc privilégié détestable ne mérite pas d'être protégé, et c'est ce que je voulais vous dire. Le dernier état là maintenant de la vision du juif israélien et du juif tout court, il est très clair. Dans le dernier
état, vous avez cessé d'être juif.
Nous avons cessé d'être des juifs souffrants. Il n'y a plus de dolorisme juif qui puisse être acceptable, puisque nous sommes des blancs privilégiés détestables. Croyez-moi, ça c'est... Et la Shoah, dans son dernier état, n'est plus même... Il fut encore un temps où Plenel, par exemple, qui adore le juif en pyjama rayé, considérait que la Shoah, c'est... Mais les successeurs de Plenel n'en sont plus là. La Shoah, finalement... C'est un crime contre les blancs privilégiés commis par des blancs détestables. Et donc la Shoah n'est plus la référence doloriste suprême. La référence doloriste suprême, c'est la colonisation par les blancs et l'esclavagisme. Attention, l'esclavagisme par les blancs. On sort évidemment de cette catégorie-là. On sort de cette catégorie-là. La traite arabo-islamique, mais comment on n'en parle pas ? Madame Taubira, dans la loi mémorielle, a exclu expressément la traite arabo-islamique en expliquant tranquillement dans l'Express qu'elle ne voulait pas justement casser le moral des jeunes de banlieue. Donc
Sartre.
Sa loi, elle est raciste.
Ça, bien sûr, mais c'est
sa loi est raciste.
Ça, Sartre, avec l'histoire, il ne faut pas désespérer,
bien
en cours. Quoi.
Bien sûr.
Donc, il savait que l'Union soviétique était une saloperie, mais il ne fallait pas le dire parce que c'était...
C'est très exactement, mutatis mutandis,
la même chose.
C'est très exactement ça.
Voilà. C'est-à-dire qu'on vit dans... Ce que vous dites, c'est que dans le fond, il y a un mensonge institutionnel qui s'est installé dans nos sociétés, qui porte sur le côté essentiellement meurtriers des Blancs, et que donc, quiconque s'attaque aux Blancs est de ce fait excusable, puisque ce sont des criminels.
Je ne suis pas sûr que le terme mensonge soit le plus adéquat. Ces gens-là ne sont pas...
C'est maintenant une réalité virtuelle.
C'est une réalité. Le blanc, étant essentiellement, pour reprendre votre vision essentialiste, si je veux dire, le blanc étant essentiellement mauvais, ayant essentiellement fait du mal au restant de l'humanité, ne peut pas être plein. Pourquoi croyez-vous, et je le dis dans mon livre, pourquoi croyez-vous que les féministes gauchisantes dans les manifestations n'ont pas voulu plaindre leur sœur israélienne violée et éventrée dans les kibbutz? Pas tant parce qu'elles étaient juives, pas du tout, que parce qu'elles étaient blanches. Et que surtout, elles avaient été violées et éventrées par des mâles qui n'étaient pas des mâles blancs et qui donc n'incarnaient pas le mal, qui étaient au contraire, dans leur inconscient tourmenté, des victimes.
Donc, ils faisaient ça malgré eux. Alors, c'est une façon de voir les choses qui est intéressante. Mais ça veut donc dire que ces gens qui propagent ces idées pensent que eux, ils ne sont pas mauvais.
Alors, c'est un peu...
C'est parce que le vrai problème, c'est que...
C'est une bonne question.
C'est la question essentielle, c'est que tous les gens qui vous collent dans des goulags, etc., parce qu'ils pensent qu'eux, ils sont bons et que vous, vous êtes mauvais.
Non. Je voudrais un tout petit peu modérer cela.
Allez-y.
À la fois consciemment et inconsciemment. Si vous vous amendez, Charles, le woke... qui s'amende.
Comme les procès de Staline, alors à partir de...
Si vous voulez, mais si le conseil que je vous donne pour racheter votre conscience de blanc privilégié, si vous vous amendez, est-ce qualité de blanc ? Il y a d'ailleurs des juifs aux États-Unis qui ont le même processus antisioniste. Hein. Mais si vous vous amendez, si vous vous reconnaissez que, comme un blanc détestable, Si vous êtes un blanc dégenré ou non-binaire, etc., qui allait même jusqu'à soutenir en Palestine ceux qui, en réalité, si jamais vous tombiez entre leurs mains, vous réserverez au pire châtiment, alors vous n'êtes plus détestable. Vous n'avez plus à vous détester vous-même.
Qui décide de ça ?
C'est votre rachat.
Et alors, c'est les autres qui vous regardent et qui vous perçoivent comme quelqu'un qui a été racheté ?
Mais vous savez, une fois que vous êtes comme ça...
Vous commencez à porter des jugements sur les autres.
Vous n'êtes plus blanc. Pourquoi ? Réfléchissez au terme de beauf. C'est quoi un beauf ? C'est quoi le beau-frère ? L'autre est un beauf. Le beauf détestable, il n'a pas le même sang que vous. C'est le mari de votre sœur. Il n'a pas le même sang que vous, le beauf. Donc il y a un moyen de se racheter justement du péché originel d'être blanc en détestant les blancs.
Donc ce que vous dites, pour revenir à des notions chrétiennes, c'est que les seuls qui souffrent du péché originel, c'est les blancs.
Oui.
C'est ça, dans le fond, quand on va au cœur du problème.
Ce sont.
Il n'y a que qui ont le péché originel.
Le péché originel d'Adolf Hitler.
Ouais, ça a été de la fin de la. Parce qu'on avait fait des tas de saloperies avant, d'après eux.
Oui.
Mais ça a été, dans le fond, Adolf Hitler, c'est celui qui a mieux réalisé le projet blanc.
C'est le nouvel antéchrist.
Oui, c'est ça.
Dans le monde post-chrétien, tourmenté, et encore je suis gentil de le présenter comme ça.
Non, c'est-à-dire qu'on présente, les blancs comme. La civilisation blanche, en quelque sorte, ne peut pas ne pas accoucher d'Hitler à la fin.
Absolument.
C'est une nécessité absolue.
Absolument. Convenez quand même, cette société-là avait colonisé l'autre. Leur analyse ne tombe pas du ciel. Ça part aussi en 68. On a déjà travaillé largement avec Sartre et les autres les péchés du colonialisme.
Oui, ils servaient des colonialismes, mais là, c'était des Allemands qui ont fait ça, si j'ose dire, d'autres Allemands sur eux. Les Allemands, ils n'ont pas fait tellement de colonies, d'ailleurs, quand ils en ont fait, c'était pas très heureux, mais...
Ah oui, ils ont déjà tué les RRO en Namibie, ils ont fait quand même...
Ils ont eu les... Puis, ils... je voulais, c'était quoi, Togo aussi,
oui,
ils
ont été un petit non, peu... Mais, été un non, problème. Mais il y a quand même... Non, mais
on peut leur trouver ça.
Non, mais les Autrichiens, c'est plus... Il faut comprendre quand même, pardon de vous dire, mais dans ma grille d'explication... Oui. La Shoah, c'est une nouvelle crucifixion. C'est quand même un véritable traumatisme. Et d'ailleurs, ce traumatisme-là, il arrive finalement dans les années 70. À l'ouverture, par les médias, par les films, à l'ouverture des camps de la mort, en 45, etc. Il y a des films, il y a Frédéric Rossif, etc.
Je me souviens du premier livre sur la Shoah que j'avais lu, c'était Le Dernier des Justes, qui était fait par...
Oui, Schwarzbach.
C'est le premier, je crois, que j'ai lu
sur
ce sujet.
Oui, mais justement, le traumatisme n'était pas encore arrivé. C'est lorsque Hollywood, notamment, Hollywood s'en charge et met et montre au contraire les juifs, il dépeint les juifs avec plutôt c'est pas les barbus qui sortent des camps de la mort, ce sont des juifs qui ressemblent davantage à des chrétiens. Holocauste, la série Holocauste, le transfert est assez facile. C'est à ce moment-là justement que le traumatisme shoatique, qui a d'ailleurs des aspects, reconnaissons-le, positifs, parce qu'il a il explique quand même ce qui s'est passé, mais il y a un choc traumatique qui rend fou. La réalité, elle est là.
Donc, grosso modo, ce que vous êtes en train d'essayer de dire, d'après ce que je comprends, c'est que les fous ont pris le contrôle de l'asile.
Quoi. Oui, mais bien sûr. Mais pardon de vous dire, mais vous ne croyez pas si bien dire.
Non, je dis pas.
Mais le monde wokiste actuellement est un véritable asile de fous. Et pardon de vous dire, on ne peut pas entendre, on ne peut pas analyser, encore une fois, sans jeter un regard psychiatrique sur ce qui se passe hier aux États-Unis et aujourd'hui en France.
C'est une histoire qu'il y a, je sais pas combien de sexes ou n'importe quoi, tout ça, c'est une histoire de fous, quoi.
Oui.
Donc, mais ça fait partie de la même maladie.
Pardon de vous le dire, quand je vois, hier, je regardais le Festival de Cannes, le monde artistique. Le mal est, si j'ose dire, enfin c'est même
mal avec un grand M,
était incarné par le patriarcat. Il y a pas d'autres mots plus importants à combattre, ni le terrorisme, ni l'antisémitisme, ni le racisme, ni pardon, ce que je considère comme l'invasion de notre territoire en phase d'occupation. Non, la seule chose contre laquelle il serait noble et courageux de lutter, c'est le patriarcat.
Mais le patriarcat du mal blanc, parce que quand le patriarcat est en Afghanistan, ils disent rien.
Il n'existe pas, celui-là.
Ah oui, c'est la coutume, c'est normal, c'est dans leur société, c'est leur civilisation.
C'est la culture.
C'est la culture.
C'est la culture.
Donc, nous avons une...
Oui.
Alors, si on en vient, donc... j'essaie d'interpréter ce que vous dites. Donc, la société israélienne est une société qui cherche à se défendre. Le rôle d'un État, finalement, c'est de défendre les citoyens du pays.
Bien sûr.
Ce pays a été attaqué, bon, on le sait, le 7 octobre. Et le gouvernement, donc, si j'ose dire, Israël est en guerre.
Israël est ?
En guerre.
Ah oui, ça va être en guerre, oui.
Oui, ben, les guerres, ça fait des victimes un peu partout. C'est pas simplement les combattants qui se meurent. Pourquoi pense-t-on que, dans le fond, ça devrait être que des soldats qui meurent des deux côtés? Parce que je connais pas de guerre où il n'y ait pas eu des tas de gens qui soient. Pourquoi cette espèce de mièvrerie? Si on est en guerre, quand les Alliés ont bombardé Dresde, il y a eu plein de gens qui avaient rien à voir avec la chemise bleue qui sont morts. Hein.
Alors, d'abord...
Essayez de m'expliquer, c'est extraordinaire.
Alors, d'abord, pardon... vous êtes un homme de chiffres aussi,
oui.
Vous êtes accessible à la question du nombre. Dans le contexte quand même idéologique dans lequel nous vivons, je serais un peu naïf de ne pas penser que le petit Israël est médiatiquement et idéologiquement de taille par rapport à la multitude. C'est d'ailleurs une des raisons qui font bien au-delà, croyez-moi, que de mes propres origines biologiques, qui font que je suis du côté d'Israël, pardon de vous le dire. Je lutte aussi contre la multitude. Pardon pour cette explication.
Mais non, vous avez parfaitement raison, parce que si Israël a quelque chose, a amené quelque chose au monde, c'est la supériorité de l'individu sur la tribu.
Je me voulais aussi prosaïque pour parler du rapport de force, y compris financier. Là aussi, je m'adresse à un financier. Je pense que vous pouvez aussi comprendre les rapports de force.
D'ailleurs, si quelqu'un veut m'acheter, je passe mon temps à le dire ici. Vous savez, la Chine, tout le monde m'achète. Maintenant, ouais. C'est Israël.
Exactement.
Donc, j'attends toujours mes chèques.
Oui. Enfin, vous n'allez pas avoir grand-chose.
Non, c'est pareil.
Je vous demande de ne pas insister.
Oui, vous voyez, toujours pareil.
Voilà, il n'y a rien à faire.
Je fais un appel.
Il n'y a rien à faire. Voilà.
Comment voulez-vous que l'Institut des libertés tourne?
Donc. Indépendamment de ça, je reviens à ma grille d'explication, un État-nation occidental a toujours tort aujourd'hui. Regardez M. Mélenchon, regardez l'attitude des insoumis. On fait la part évidemment de leur bas électoralisme très prosaïque. Je ne suis pas bien sûr que leur calcul soit très bon, mais peu importe, ils attendent le grand soir et l'union entre les Black Blocs et puis
ce qui est arrivé aux communistes en Iran.
Sans doute. Et la banlieue. Mais indépendamment de ça, on demandait il y a quelques années, j'ai relayé le film, on demande à Monsieur Mélenchon, qui est le premier avec ses amis Porte et Guiraud, de parler de génocide. De génocide, parce qu'il y a des morts civiles à Gaza. Très bien. Et il y a quelques années, on a repassé le film, on lui demande de s'expliquer sur les bombardements russes sur Mossoul et Raqqa contre l'État islamique. Et lui, tranquillement, sans état d'âme particulier et avec une relative justesse, à la journaliste de service public qui lui dit « Mais quand même, Monsieur Mélenchon, il y a des morts civiles, l'imam ou cela. » Et il lui dit « Bon, attendez, madame, oui, il y a des morts civiles. Vous avez déjà vu une guerre où il n'y a pas de morts civiles ?» Ah, il ne s'est pas gêné. Il n'a pas pris de précautions oratoires. Et dans mon livre, je rappelle effectivement que les bombardements anglo-américains sur la France occupée ou sur l'Allemagne hitlérienne, c'était pas comme les Israéliens où on prévient quand même. Il paraît que c'est une infamie.
Il y a Dresde, tout ça, où ça a bien cramé.
Mais on n'a pas prévenu les civils de Dresde qu'on allait les bombarder. Et croyez-moi, en 1945, l'intérêt militaire était moins important que l'intérêt militaire des Israéliens à vouloir justement régler leur compte dans un territoire exigu au Hamas qui se protège à l'intérieur des populations civiles. Donc cela, c'est fondamentalement... Parce que, encore une fois, non seulement un État-nation occidental aujourd'hui a toujours tort, mais n'oubliez pas quand même, tout de même, c'est l'État-nation occidental des Juifs. C'est la trahison du Juif en pyjama rayé que de vouloir se défendre et de vouloir tuer. La réalité dans l'inconscient tourmenté de ces gens-là.
Non seulement vous êtes blanc, mais en plus vous êtes juif.
C'est la double peine, ça. Mais l'Israël, bravo, l'Israélien est un blanc au carré. Il n'y a pas pire. Vous ne pouvez pas imaginer pire comme
et en plus,
incarnation.
Et en plus, il se défend.
Il se défend. Donc, il n'y a pas pire incarnation du mal que le juif en uniforme kaki, que le juif israélien qui veut que son État-nation occidentale survive. Mais en France, pendant des années, maintenant, grâce, il me semble, à un combat culturel important et surtout à la cruauté de la réalité qui est plus forte que l'idéologie.
On l'a vu encore hier avec ces pauvres gars qui sont fait descendre. Ce que vous dites, si vous voulez, ce qui s'est passé dans le fond à Tancarville ou ce qui se passe à Gaza...
C'est la même chose. Mais c'est exactement la même chose et par à peu près les mêmes individus. Il y a un sujet tabou hier et encore aujourd'hui sur la description de ce qui est passé hier avec les deux malheureux de l'administration pénitentiaire, c'est le sujet de l'immigration. C'est quoi le narcotrafic? Ça tombe du ciel, le narcotrafic?
Et c'est surtout une situation de guerre. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'attaque à notre État, ouais, comme un autre État qui s'attaquerait à notre État. Entendu, c'est nouveau, ça.
Mais il s'attaque non seulement... Plus encore qu'il s'attaque à la fois aux représentants de l'État détestable, mais il s'attaque tout autant aux représentants de la nation détestable. Il n'y a pas de mal aujourd'hui à tuer deux blancs, a fortiori deux
représentants. Qu'est-ce qu'avait dit Sartre d'ailleurs?
Mais oui, mais c'est...
Sartre, il avait dit ça, si quand un noir tue un blanc, c'était dans les années 50.
Oui, oui.
Ça libère deux personnes.
Ça libère deux personnes, exactement. Mais vous voyez bien que ça libère aussi. Vous voyez bien que ça libère aussi celui qui tient le revolver. Lorsque le woke blanc s'en prend au blanc, d'une certaine manière, il se désincarne lui-même. Voilà.
Donc vous êtes un partisan robuste, si je peux me permettre.
Robuste
de la guerre des civilisations d'Huntington, quoi.
Alors écoutez, malheureusement, il fut encore quelques années, je n'avais pas une très grande conscience d'être blanc. J'explique au contraire dans un autre livre.
C'est vrai, moi non plus d'ailleurs.
Mais non, mais moi j'ai. Mais,
moi
mais,
j'étais juste conscient d'être français.
Ah non, mais moi c'est pire, pardon. C'est pire. Moi on me regardait il y a encore 50 ans plutôt comme un métèque. Moi, à Gournay-en-Bray, quand on m'expliquait les choses et que les chrétiens, reconnaissons-le, certains chrétiens considéraient que j'avais tué Jésus, quand on me parlait... C'était, j'ai connu ça.
Oui, je sais bien.
Ah non, j'ai connu ça.
Je sais bien, mais ça a toujours été quelque chose que les moitiés chrétiens poussaient comme idée pour pouvoir être racistes, mais ça n'a jamais été dans la doctrine de l'Église.
Je vous corrigerai. Vatican II et les prémices de Vatican II ont fait quand même beaucoup pour...
C'était d'une mauvaise tradition du latin, mais on pourra en parler un jour.
Oui, oui, non, d'accord. Mais en tous les cas, je me vivais, ça vous ne pouvez pas me le contester, je me vivais comme tel, et à l'époque, môme, quand on me parlait d'un musulman, c'était plutôt comme ça, bêtement, quelqu'un avec lequel j'étais peut-être plus proche encore, puisque j'étais métèque. Là, en dehors même de la question juive, je me sens aujourd'hui malheureusement blanc, mais depuis qu'on me déteste est-ce qualité de blanc, vous savez, la détestation, c'est une grande chose pour l'incarnation. Donc effectivement, dès l'instant, vous savez, j'ai beaucoup lutté contre le concept de racisme anti-blanc. Et que certains encore, SOS racisme, il y a encore 5 ans, considéraient que tous les gens qui osaient parler de racisme anti-blanc et des sales racismes d'extrême droite. Et le fait, il y a encore, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, le fait, il y a encore 5 ans, de parler d'immigration, de faire le lien entre immigration et délinquance, de dire que l'État français a le droit quand même de contrôler ses frontières et de vouloir protéger sa culture judéo-chrétienne, mais les gens se signaient dans la nouvelle religion lorsqu'on vous disait cela. La réalité, elle est là.
Donc vous êtes... Ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve dans un monde où... Nos systèmes éducatifs en particulier ont propagé cette haine de la civilisation, cette haine. Et ce qui est très stupéfiant, c'est qu'aujourd'hui, vous avez donc des gamins de 20 ans à qui on n'a jamais expliqué, contrairement à l'école de Jules Ferry, pourquoi la France était un pays merveilleux et pourquoi il fallait vouloir devenir citoyen. Donc, c'est pas étonnant que ces gars dans les banlieues à qui on expliquait que la France avait été colonialiste, etc., patriarcale...
Mais ce sont des victimes, cher Charles.
Ils se sentent pas français.
Mais cher Charles.
Ils ont pas envie de s'associer à quelque chose d'aussi abominable.
Mais mettez-vous à leur place. Leur père ou leur grand-père, en tous les cas, ne considérait pas la France comme un pays hostile. Non. La plupart du temps, ils étaient contents de travailler. Mais vous avez une extrême gauche qui leur a dit « Mais vous êtes vraiment des idiots de vous embêter à travailler pour rien. Vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Les blancs français sont des post-colonialistes racistes qui vous détestent. Mettez-vous à la place du pauvre môme. » C'est d'abord très confortable d'être une victime.
Ah oui, c'est pas de ma faute. J'y suis pour rien.
Mais c'est très, dans un monde martyrologique, martyrocrate, comme je dis, c'est très confortable d'être une victime.
Et si vous ratez votre vie, c'est pas de votre faute.
C'est pas de votre faute. Donc il lui fallu que ça soit des saints laïcs pour ne pas y croire. Moi, dans ma vie, j'ai rencontré peu de saints, et ces gens-là ne sont pas souvent laïcs. Donc, ce sont des victimes, pardon d'être victimaire, mais ce sont des victimes de l'idéologie d'extrême-gauche à laquelle...
Mais on leur a enseigné qu'ils étaient des victimes, ils n'ont pas ressenti. Parce qu'ils vivaient en France, ils avaient les systèmes et tout.
Alors, attendez, c'est pas si simple que ça. Quand vous êtes ensuite dans une banlieue... Quand vous êtes foncé de peau, lorsqu'une partie de la banlieue s'en prend aux flics, aux Français, aux franchouillards, on ne peut pas exclure que les flics eux-mêmes, qui ne sont pas non plus des saints laïcs, les regardent avec un regard un petit peu oblique. C'est aussi cela qui s'est mis en place dans la guerre des communautés. Elle est réelle, celle-là aussi.
Oui. Et donc, si par exemple le flic lui-même est assez bronzé, les autres vont lui dire qu'il a trahi.
Que c'est un arabe de service. La réalité, elle est là. Les flics bronzés sont regardés par une partie de la population des banlieues comme des collaborateurs. La réalité, elle est là. Nous sommes.
Donc, on est devenus comme les autres. Pour ces gens-là, on est des occupants.
Nous sommes des occupants.
Mais qui n'ont aucune légitimité particulière. Et peut-être que le jour où ils seront plus nombreux que nous...
En tous les cas, il n'y a pas de mal à leur faire du mal tant eux ont fait du mal à leur pauvre pays, l'Algérie, et continuent à leur faire du mal à eux en France. Donc, il ne faut pas se gêner. Une note quand même, permettez-moi le dire, c'est que ce que je décris là, dans les grandes lignes, les Français de France, de culture, qui sont attachés, Dieu merci encore, à leur terre, à leur civilisation judéo-chrétienne, à la démocratie consubstantielle de la République française, ils le savent, enfin, ils ne l'expliquent pas comme ça, mais ils le savent.
On le sait très bien, oui.
Donc, ce que
alors,
je veux dire, et c'est pour ça d'ailleurs...
Que c'est pour,
elle, c'est, bah, la non, question c'est pour ça d'ailleurs c'est que
pourquoi,
mon livre, il est compris.
Pourquoi les gens qui sont au pouvoir passent-ils leur temps à nous parler de choses qui ne nous intéressent pas et à ne pas parler des choses qui nous intéressent?
Alors, il y a beaucoup de choses. D'abord, les gens qui sont au pouvoir n'incarnent pas le peuple.
Non.
Ces gens qui sont au pouvoir, d'abord, ils sont passés par Sciences Po, ils sont passés par bien des endroits où eux-mêmes ont été acculturés. Enfin, eux-mêmes sont passés par ce lavage de cerveau-là. Et puis, quand bien même ils commencent un tout petit peu à prendre conscience des choses, ils ont peur. Quand vous avez le président de la République, qui, comme vous savez, est un peu ondoyant, quand vous avez quelqu'un qui, de son retour d'Israël, où il voulait combattre le Hamas, etc., faire un front international contre le Hamas, le lendemain matin, il avait oublié. Rien. L'antisémitisme, ici, à cause de cela, décuple. Qu'est-ce qu'il dit, le président de la République? Il le dit en Suisse. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je n'irai pas à la manifestation. Il l'explique, en plus. Parce que je ne veux pas diviser les Français et je ne veux pas non plus jeter l'opprobre sur la communauté musulmane. Il était traumatisé déjà dans la crainte de la guerre civile. Il a prononcé ce discours défaitiste en terre helvétique, mais il aurait pu le prononcer à Munich. Ils sont aussi dans la peur parce que nous vivons, je le dis, en partie sous occupation.
Donc, ils sont en train de devenir des dhimmis.
Ils sont effectivement dans une manière de dhimmitude intellectuelle, politique et psychique.
C'est-à-dire que... Mais d'ailleurs, on se dit, il doit être peureux, cet homme, parce qu'il y a d'avoir comment il se défend, comment il a fait transformer l'Élysée en une espèce de blocos, c'est qu'il a peur de tout, cet homme-là.
À sa décharge, il vit dans une France compliquée, où il a eu des émeutes, dès l'instant où vous avez vu ce qui se passe. Quand les deux malheureux de la pénitentiaire... Il ne va pas y avoir d'émeute, il va y avoir une marche blanche, écoutez les mots, il va y avoir une marche blanche, dans le meilleur des cas, une marche blanche, digne et silencieuse. Quand les émeutes ont éclaté à la suite de la mort de Naël, que vous savez, après un refus d'obtempérer, il y a eu une colère noire. Il y a eu une colère noire. Celle-là, c'était pas l'instrumentalisation de je ne sais pas quoi. Alors, il fallait la calmer, il fallait cela, il fallait ça.
Alors, comment le peuple retrouve-t-il un moyen d'exprimer quelles sont ses préférences ?
Ah, écoutez, déjà, pardon de le dire, l'extrême gauche et même la gauche n'incarne plus vraiment la majorité de la population, que ce soit en France ou en Europe. Et elle n'incarne même plus, c'est l'aspect optimiste des choses, la figure du diable. La figure du diable post-hitlérien n'est plus incarnée par personne politiquement. Il semblerait même, en poussant l'optimisme, que la figure du diable, dans le système un peu monodiabolique dans lequel nous vivons, il n'y a qu'un seul diable, c'est plutôt M. Mélenchon qui est en train de l'incarner. Les choses changent.
Les choses changent, mais il y a une différence entre la perception du peuple qui bouge, si j'ose dire, et les hommes politiques qui restent à la même place.
Pas tous. Je, très sincèrement, je n'ai pas honte de la droite française et je n'arrive pas, au moment où je vous parle, de faire une immense différence entre M. Ciotti, M. Zemmour et Mme Le Pen ou M. Bardella. Je n'arrive pas à faire une immense différence. J'ai l'impression que leur discours sur l'immigration, leur discours sur la justice, leur discours sur Israël est assez commun.
Mais là où il y a une différence, c'est leur discours sur la souveraineté.
Ça, c'est peut-être... Oui,
parce que je ne crois pas que ces problèmes puissent être résolus en France si la France, par exemple, tant que les institutions européennes, les cours de justice sont supérieures aux nôtres...
Vous avez raison.
On ne peut pas.
Vous avez raison,
donc,
mais vous...
Il faut que le discours passe sur la souveraineté.
Vous avez raison, mais on peut aussi militer à nouveau pour l'Europe des nations.
Par exemple. Mais, tout à fait. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on trouve un moyen... pour que le peuple puisse s'exprimer et que ce soit sans, comme ça se passe avec le référendum en Suisse.
Mais nous ne vivons pas, la réalité, c'est que nous ne vivons pas dans un espace de liberté. C'est faux. Nous vivons dans une sorte de quasi-dictature, disons-le, à cause d'abord du diktat médiatique, une grande partie de l'idéologie médiatique incarnée notamment par l'audiovisuel de service public, comme je l'appelle,
Donc ce qui veut dire, si vous avez raison, que la première des choses que doit faire un gouvernement démocratique, c'est de cesser toutes les subventions à ces gens-là.
Alors,
il faut supprimer le ministère de la Culture et supprimer ces gens-là.
Il faut privatiser l'audiovisuel de service public et il faut aussi se libérer. On parle
mais privatiser, ça ne marche pas parce que c'est les mêmes deux ou trois qui rachètent.
Non, mais pardon, Charles.
Il faut donner des actions publiques.
Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Regardez, Le Monde et Libération et l'audiovisuel de service public ironisent beaucoup sur le gouvernement des juges en Amérique parce que la majorité des juges de la Cour suprême seraient conservateurs. Et qu'est-ce qui se passe en France ? Monsieur Fabius, président du Conseil constitutionnel, d'où il vient ? Ceux qui tiennent le Conseil d'État, ceux qui tiennent le commissariat aux droits de l'homme, ceux qui...
C'est tous des socialistes.
Tous, madame la responsable de la situation aux prisons. Vous pouvez regarder tous les corps sociaux, et je ne vous parle pas évidemment de l'extérieur de la Cour européenne des droits de l'homme, ils sont tous tenus par la gauche ou l'extrême gauche. Ça s'appelle ça, c'est vivre en liberté ?
Non, mais c'est le vrai problème, c'est cette espèce de une toute petite minorité qui a bloqué tous les postes de pouvoir, et on a eu, c'est quelque chose qui existe assez peu dans les démocraties jusqu'ici, c'est-à-dire une liaison qui s'est faite entre l'appareil judiciaire et l'appareil politique pour que ceux qui sont dans le système politique puissent utiliser l'appareil judiciaire pour se débarrasser
oui,
des autres.
Oui.
Et ça, c'est nouveau.
C'est nouveau, mais donc, pardon de vous le dire, je suis pas, vous pouvez sûr que je me caractérise pas par l'optimisme. On peut me reprocher beaucoup de choses, sauf d'être un optimiste excessif. Mais je pense que nous sommes dans le début du commencement.
Du changement. Moi, je suis d'accord avec vous.
Je pense vraiment que nous sommes.
Je crois que ça va aller mieux.
Oui, mais il n'y a qu'une seule question. C'est que je vous disais à l'instant que nous vivons partiellement sous occupation. Je ne sais pas quelle heure il est. Je ne sais pas si nous sommes midi moins 5 ou midi 5.
Moi non plus, mais ce que je sais, c'est que le mur de Berlin va tomber.
Oui, j'en suis sûr.
Le mur de Berlin.
Oui.
Ben restons sur cette bonne idée que le mur de Berlin va tomber, parce que on va en prendre plein la gueule, mais on sera libre.
Oui, j'y crois.
Et ça, c'est bien ça.
J'y crois.
Merci beaucoup.
Merci Charles.
Merci, c'était bien de venir nous voir. Merci finalement. Et n'oubliez pas, je reprends le journal de guerre, c'est l'Occident qu'on assassine. Je l'ai lu, c'est très bien.
Merci.